Damas, capitale de la Syrie, 2,5 millions d'habitants. L'homme qui marche sur ce trottoir, sac au dos, est journaliste. Il collabore avec nous pour Investigation. Dans cette agence de transfert du centre-ville, il verse l'équivalent de 500 euros sur un compte en banque syrien. Sans aucune trace de transaction internationale, cet argent devrait être disponible dans les prochaines minutes à 4000 km de là, au cœur de Bruxelles. Pour récupérer cet argent, on a rendez-vous quelques heures plus tard avec un homme qu'on ne connaît pas. On va tenter de filmer cette rencontre sans éveiller ses soupçons. Arrivé au lieu de rendez-vous, l'homme est déjà là. On le suit jusqu'à sa voiture, puis tout va très vite. Il nous remet une liasse de billets. On vérifie le montant. Il y a bien 500 euros.
Moi, ma travail comme ça, quand tu avais tellement de monde de voiture, bah, ici, tout le monde, ça vaut bien pour moi.
L'homme est nerveux, car on l'apprendra plus tard. La confiance est la base de ce système informel qui porte un nom, la Wala. C'est un mot d'origine arabe qui signifie transfert d'argent. Plus vieux que notre système bancaire actuel, la Wala est utilisée depuis des siècles dans le monde entier. Un réseau d'intermédiaires qui font voyager l'argent, mais sans jamais le déplacer.
Est-ce que c'est important d'envoyer ce cash à votre famille?
Oui, c'est important parce que quand je n'irai pas, ma mère, elle ne mange pas.
On va vous montrer comment fonctionne ce réseau et qui l'utilise. Vous allez le voir, la Wala fait avant tout les affaires de ceux qui veulent rester sous les radars des autorités.
Ça permet de ne pas être fichier en fait au niveau des banques et tout ça.
Les autorités soupçonnent la Wala de faciliter le blanchiment d'argent, le trafic de drogue ou le financement du terrorisme.
La plupart du cash semble provenir des vendeurs de drogue. Ils utilisent ce service pour transférer leur argent.
En exclusivité, nous avons eu accès à un dossier judiciaire unique en Europe. En transitant par une maison de Skarbek, des sommes colossales ont fait le tour du monde.
Waouh, je ne pourrais jamais imaginer trouver quelque chose de cette ampleur-là.
Avec d'autres journalistes européens d'Investigation, on a découvert que des dizaines de sociétés belges participent, sans le savoir, au mouvement de l'argent du crime organisé.
On est tombé dans un piège, oui. Tombé dans un piège. Mais rien d'illégal de ces produits. J'en suis absolument certain.
Un témoin clé va nous permettre de comprendre le fonctionnement de cette structure opaque et planétaire.
J'ai travaillé avec la communauté Awala. J'y occupais une position relativement élevée dans la hiérarchie. Je ne souhaite donc pas me mettre en danger, ni ma famille d'ailleurs.
Cet homme va nous aider à percer les secrets de la banque clandestine. Aéroport de Bruxelles. Ce jour-là, ces douaniers à quatre pattes sont en plein travail. Ils ne cherchent ni drogue, ni armes. Leur mission, c'est de trouver de l'argent liquide.
Ils cherchent plusieurs billets, donc des euros, dollars. En fait, ils cherchent tout ce qu'on apprend aux chiens. Mais il faut apprendre tous les différents odeurs, parce qu'il y a une différence entre tous les billets.
Si les dollars sentent l'encre, les euros ont l'odeur du coton. Les livres sterling, celle du plastique. Ce qui est plus surprenant encore, c'est que ces chiens sont capables de repérer les montants supérieurs à 10 000 euros. En quelques minutes à peine, un premier passager est marqué. La première règle, c'est qu'au-delà de 10 000 euros, l'argent doit être déclaré. C'est une disposition européenne pour contrôler l'entrée et la sortie d'argent liquide au niveau de l'Union. La seconde règle, c'est de pouvoir justifier la somme transportée. Un peu plus loin, les chiens repèrent un autre passager.
avant d'embarquer pour le Maroc. Lui aussi va devoir se soumettre à un contrôle.
Vous avez combien là, monsieur?
7 000 euros.
Vous transportez souvent, peut-être?
Non, ça va. C'est juste parce que là-bas, c'est compliqué de faire des virements d'un compte européen à un compte étranger. C'est pour ça que j'ai préféré prendre l'espèce avec moi, c'est pour ça. Merci.
Toi là, vous rentrez?
Non, j'ai rien fait. Moi, j'ai son vide.
Ouais, c'est pas 10 000 euros.
Monsieur, il faut partir sans déclarer.
Oui. Voilà, monsieur, bonne journée. Hein. Salut.
En 2025, les douanes ont constaté 300 infractions aux règles européennes et saisi près de 7 millions d'euros. Chaque année, près de 10 milliards d'euros quittent notre pays pour des raisons personnelles ou professionnelles. Vous allez l'entendre, pour les habitués de ce marché de la capitale, envoyer de l'argent à l'étranger, c'est monnaie courante.
Vous envoyez où ?
Au Cameroun.
Et vous envoyez à qui ?
À mes tantes, j'aide ma famille parce que mon père est décédé il n'y a pas longtemps, donc j'aide ma famille en fait qui sont restés là-bas, les cousins, les tantes.
Par exemple, une fois par mois, une fois par deux mois. Et aussi, je n'envoie pas beaucoup d'argent au Maroc. J'ose par exemple 50 euros, 40 euros pour aider mes parents. Parce qu'au Maroc, ce n'est pas comme ici. Là-bas, la vie, c'est pas cher. 50 euros là-bas comme 200 euros ici. Ah, c'est ça.
Ces transferts se font dans la grande majorité des cas, non pas en prenant l'avion avec du cash, mais via des agents spécialisés. Elles sont présentes dans le monde entier. Leur fonctionnement est très réglementé en Europe.
Alors dites-moi, si je veux envoyer 500 euros à l'étranger, quels documents je dois vous fournir?
Alors ici, il me faut votre carte d'identité. Pas de carte d'identité, pas de transfert. Ça, c'est la base. Plus ensuite, en fonction du profil du client et de ses opérations, on peut être amené à ce qu'il remplisse un questionnaire de connaissance du client qui nous permette d'identifier l'origine de ses revenus et le motif de ses opérations.
Le montant est plafonné. Dans cette agence, il est même assez bas.
Alors, le maximum que vous pouvez envoyer, c'est 3 000 euros par mois. Pas plus. Ça peut être moins en fonction du type de document que vous présentez. Si vous présentez un passeport, ce sera maximum 500 euros par mois. Mais vous serez soumis aussi aux mêmes dispositions de contrôle.
Des contrôles stricts pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Dans l'ombre de ce circuit légal, un moyen de transfert plus discret fait sauter ses verrous.
Il y a aussi des personnes qui ont des agences ici, des transitaires, des trucs comme ça, qui ont des agences ici et on leur remet l'argent et la personne récupère en Afrique.
Et ça, c'est d'autres...
C'est d'autres moyens, oui. Pour quelqu'un qui n'a pas une pièce d'identité, il suffit que je lui donne mon numéro de téléphone, mon nom, et il arrive là-bas, il dit qu'il récupère l'argent de la part de telle personne et on lui remet l'argent aussi.
Et ça, ça coûte moins cher?
Bah, c'est quasiment rien du tout. Ça peut coûter 1-2 euros.
Ce réseau moins contraignant et sans formalité est utilisé par de nombreuses diasporas. Mais vu qu'il est illégal en Belgique, rares sont ceux qui acceptent d'en parler. Les utilisateurs redoutent les répercussions sur la confiance au sein de leur communauté. Mais plusieurs ont accepté de témoigner. Le premier est mauritanien. Sans papier, il est arrivé en Belgique il y a quelques mois. Il préfère rester anonyme.
Pourquoi est-ce que vous préférez passer par ce système-là plutôt que Western Union ou la banque?
Parce que pour moi, je n'ai pas de papier pour aller à la Western Union. Parce que Western Union ou Western Union ou RIA, il faut que tu amènes les cartes d'identité pour envoyer.
Est-ce que c'est important d'envoyer ce cash à votre famille?
Oui, c'est important parce que quand je n'en vais pas, ma mère, elle mange pas. Il faut que je travaille, j'envoie pour ma mère, elle achète des médicaments ou elle achète des nourritures.
Et vous n'avez pas d'autres solutions?
Non, aujourd'hui, je n'ai pas de solution. Oui, je n'ai pas de solution.
Ces
cet autre témoin a lui des papiers d'identité. Mais ce chef d'entreprise a des ennuis avec sa banque et les autorités. Il ne peut plus faire de virement vers l'étranger, mais il a trouvé dans ce réseau parallèle le moyen de poursuivre ses affaires au Cameroun, et ce, à moindre frais.
Et aujourd'hui, voilà, c'est une bonne alternative au système classique. Voilà, ça permet de pas trop être fiché, en fait, au niveau des banques et tout ça. Il y a zéro commission, en fait. Vraiment aucune. Vous devez envoyer 100 euros d'ici, bah, vous faites la conversion, la personne de l'autre côté reçoit exactement les 100 euros. Il n'y a aucune... Il n'y a vraiment aucune marge, et zéro.
Pour nous montrer la rapidité et la simplicité du système, il accepte d'entamer une transaction devant nous. Ce jour-là, il doit envoyer 250 euros au Cameroun. Par message, un intermédiaire lui donne rendez-vous à la station de métro Clémenceau, à Bruxelles.
Bon, je vais faire un tour à Clémenceau, je vais donner ça en liquide, quoi. Dès qu'il a le cash, il fait la transaction instantanément.
Discrétion oblige, on ne peut pas l'accompagner sur place. Mais on va vous expliquer clairement comment fonctionne la Wala et ce qui va se passer devant la station de métro. Notre témoin A, qui est donc à Bruxelles, veut envoyer de l'argent à son ami B, qui lui se trouve à Yaoundé, au Cameroun. À la station Clémenceau, A va retrouver son intermédiaire, sa personne de confiance. Retenez bien ce nom, c'est Lawaladar. A lui remet les 250 euros et va recevoir, en échange, un code. Ce mot de passe, il va le communiquer à son ami B. Entre-temps, Lawaladar de Bruxelles va contacter par téléphone à Yaoundé un homme qui est lui aussi Lawaladar. Il va lui demander de remettre à B l'équivalent de 250 euros. En échange du code, B recevra la somme en liquide. Un transfert effectué quasi instantanément, sans trace, sans carte d'identité, à la confiance, c'est ça, la Wala. Cette confiance existe surtout entre des personnes qui ont des liens communautaires très forts, parce qu'elles viennent du même pays, du même village ou de la même famille. Vous allez l'entendre avec notre dernier utilisateur, ces transactions ne se font pas toujours en rue. Ce Syrien a lui utilisé un réseau Awala basé dans un magasin.
On se rend chez lui comme si on voulait acheter des vêtements. On lui dit qu'on veut faire un transfert vers tel ou tel endroit et on achète quelque chose en même temps. On ne sait jamais s'il est surveillé ou quoi, puis on s'en va normalement. Et puis quand l'argent arrive en Syrie, il me dit de quelle manière cela se déroulera. Par exemple, que la personne porte du rouge ou bien un mot de passe, quelque chose de distinctif, comme un nom spécial. Quand ils vont au magasin, ils donnent le mot de passe et ils achètent une pièce de vêtement. Il leur met la pièce de vêtement dans le sac avec l'argent. Autrement dit, comme s'ils avaient acheté des vêtements.
À ce stade de notre enquête, on a compris que la Wala permet de faire circuler de l'argent et qu'il peut être potentiellement utilisé par le 1,5 milliard d'adultes qui, à travers le monde, n'ont pas de compte en banque. Mais notre enquête va prendre une toute autre ampleur quand on va découvrir avec nos confrères de la VRT que la Wala est aussi la porte ouverte à toute forme de criminalité. En octobre 2024, 6 ressortissants palestiniens comparaissent devant le tribunal correctionnel. Ils sont soupçonnés d'organiser depuis 7 ans des transferts illégaux d'argent vers l'étranger. Ce n'est pas la première affaire d'Awala jugée en Belgique, mais c'est celle qui va permettre aux autorités de percer certains secrets de cette banque clandestine. Vincent Guerra est le magistrat qui a mené l'enquête pour le parquet fédéral.
C'est un dossier qui a été assez long, qui a été assez complexe, avec des périodes
je dirais, assez difficile
dans l'enquête, mais un dossier pour lequel finalement on a un résultat qui est particulièrement intéressant, puisqu'il nous a permis de découvrir finalement un réseau mondial à Walla, et surtout de découvrir son fonctionnement, de rentrer dans le cœur finalement du système, ce qui est assez exceptionnel.
Plus de 4 ans d'enquête. Un dossier de plusieurs milliers de pages que nous avons pu consulter en exclusivité au parquet fédéral avec Deborah Votken et Victor Van Driche de la VRT. Des heures de lecture et de décryptage pour vous expliquer, à travers cette affaire exceptionnelle, le fonctionnement d'un réseau clandestin à l'échelle planétaire. Tout commence en 2019. Les autorités françaises enquêtent alors sur un dossier de collecte d'argent à destination de l'État islamique. L'argent doit permettre la libération de femmes de djihadistes détenues dans un camp au nord-est de la Syrie. La police française contacte le parquet fédéral belge car un certain Walid A serait impliqué. Ce Belge chercherait à envoyer de l'argent. Il est mis sur écoute. Voilà l'échange qui a lancé l'enquête.
Assalam alaikum, je suis bien avec Abou Hamad.
Wa alaikum salam, qui est en ligne?
Je viens vers toi de la part de Abou Adam. Je veux confier quelque chose pour envoyer en Syrie.
Tu te trouves où?
À Bruxelles.
Inch'Allah, je suis à Scarbé. Contacte-moi le mercredi.
Bien sûr. Mercredi, je rappellerai vers 5h, Inch'Allah.
D'accord, Inch'Allah.
Le jour convenu, la rencontre est prévue, au lieu dit, la cage aux ours. À l'heure fixée, les deux hommes sont là. Le temps de s'identifier, ils se rejoignent, s'échangent une enveloppe, puis se séparent. Cette enveloppe va encore changer de main. Elle va parvenir à un troisième homme. Ce sera le personnage clé de ce dossier.
Assalamu alaikum, Abou Adam. Je voudrais te dire que j'ai rencontré Abou Hamad et que je lui ai donné une enveloppe dans laquelle il y a 2550 euros.
Ils sont arrivés, mon frère. Parfait.
Les enquêteurs tiennent la preuve qu'il y a eu un transfert d'argent destiné à l'État islamique en Syrie et que deux hommes ont joué un rôle clé dans cette transaction. Leur pseudo, Abou Hamad et Abou Adam.
Dans la hiérarchie, on a Abou Adam qui est à la tête du bureau bruxellois. Et puis il y a ses délégués, et je dirais que Abou Hamad, c'est son délégué principal. C'est son numéro 2 à Bruxelles.
Les enquêteurs suspectent les deux hommes d'être impliqués dans un système de transfert d'argent de type Hawala. Pour essayer d'en avoir la preuve, ils décident de surveiller le domicile du numéro 2, Abou Hamad. Dans cette rue de Scarbeck, ils seront témoins d'incessantes allées et venues, de jour comme de nuit.
Concrètement, ce qu'on voit, c'est des personnes arriver dans la rue, s'approcher de la porte d'un de nos principaux suspects. Ça va un peu différer suivant les personnes. Certains vont directement sonner à la porte, on va leur ouvrir. Ils vont remettre quelque chose, un paquet dont on ne connaît pas le contenu à ce moment-là, et puis ils vont partir. Ça va durer, l'échange dure quelques secondes. Je pense qu'on avait pu globalement identifier une quinzaine de personnes.
Ces petites mains viennent déposer une enveloppe ou un sac plastique. Elles viennent parfois aussi avec un sac de sport ou une valise. Les enquêteurs suspectent qu'ils contiennent quantité d'argent liquide. Ces petites mains, on les appelle les collecteurs. Ils sont chargés de transporter l'argent sale entre le client et la Waladar. Qui sont ces collecteurs et d'où viennent-ils? Pour le savoir, on a rencontré un autre spécialiste. Quentin Mug travaille pour l'agence qui coordonne les actions de police au niveau européen. Il a enquêté de nombreuses années sur la Walla.
Ces collecteurs, ils peuvent être vraiment venir de tous les horizons. J'ai vu des gens qui étaient des pauvres gens recrutés littéralement sur le trottoir, sans papier, et qui étaient contents de faire ça pour des sommes ridicules. Hein. Faut pas croire qu'ils s'enrichissent tellement, les collecteurs. Hein. La Walla d'art, oui. Mais... et puis d'autres qu'ils faisaient de manière parfaitement consciente, avec au contraire un objectif quasiment professionnel. Mais ils ont aussi une autre caractéristique qui les rend intéressantes, c'est qu'ils ignorent totalement d'où vient le cash et où il va, et pour le compte de qui tout ça se fait. Puisque les collecteurs en fait, du Walla d'art souvent rencontrent des collecteurs stupes, c'est-à-dire des gens qui eux-mêmes, au sein des réseaux de stupes, sont chargés de se promener avec l'argent liquide, etc. Ils n'ont pas une connaissance très approfondie du réseau.
Après plusieurs mois d'enquête et des heures de planque, les policiers interviennent. Ils perquisitionnent la maison de Skarbek. Ils arrêtent les suspects et saisissent tous les téléphones portables. Le contenu de celui d'Abou Adan, le chef du réseau, va surprendre les enquêteurs. Le magistrat se souvient de sa stupeur quand il a découvert leur rapport.
Et quand je l'ai lu, j'étais assis, et je pense qu'il valait mieux que je sois assis, parce que ma première réflexion, ça a été waouh. Waouh. Je ne pourrais jamais imaginer trouver quelque chose de cette ampleur-là. Si le Walla est une voiture, on va ouvrir le capot. Et on va voir pour la première fois le mécanisme avec ses milliers d'échanges.